C'est énorme, hein? Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il ne s'agit pas de notre cœur physique ou de nos organes. Ce mot-là, cœur, qui est utilisé, il vient de l'hébreu lev. Et il se réfère normalement aux formes intérieures, à l'intelligence, à la volonté de la personne. Il est donc ici question du centre de nos émotions, de notre intellect, de notre vie spirituelle. Tout comme le cœur humain, l'organe est indispensable pour soutenir la vie, si le cœur s'arrête, on arrête de vivre, eh bien le mot lève est employé ici pour désigner la source de tout ce qui influence sur notre bien-être, notre âme là au cœur de nous-mêmes. Le cœur, c'est donc cette partie de notre être qui se compose de nos valeurs, de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos passions, de notre zèle, de notre faiblesse, de notre force, des dons, des talents, de tout ça. Il s'agit de l'âme, cette chose intérieure, cet être intérieur. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons voir que le cœur peut être corrompu par, et qu'il est la source, et qu'il peut être la source du péché. On voit ça dans Genèse, dans l'Ecclésiaste. Le roi David, constatant la déchéance du cœur, s'est écrié dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Dieu peut en effet régénérer et nous donner un cœur nouveau, nous dit Ézéchiel. Il peut le rendre capable d'obéir à sa loi. Le cœur est le siège des émotions, de la joie et de la tristesse, nous dit Samuel, et le siège des passions, nous dit Ésaïe. Il est le symbole de l'amour, nous dit Proverbe 83. Il est le cœur et le siège de la pensée et du jugement, nous dit le Deutéronome 8. Le cœur est aussi le siège de la volonté. Certaines expressions traduisent aussi les états de la conscience morale. Par exemple, Ésaïe 41 nous dit « J'endurcirai mon cœur ». Ézéchiel, faites-vous un cœur nouveau. Et Deutéronome, la droiture de notre cœur. Et dans Joël, il est écrit « Déchirez vos cœurs ». Ça fait beaucoup de choses pour un seul cœur. Le Nouveau Testament, quant à lui, nous dit que le cœur est le siège des sentiments, de l'affectif. Comme dans 1 Pierre 1, 22, où il est écrit « Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur ». Mais plus souvent, le cœur est le centre de l'activité spirituelle, de la conscience. Matthieu 5, 8 nous dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et 2 Timothée « Recherchez la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ». Luc, quant à lui, nous dit « Ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon la retiennent ». Et dans Matthieu, il est écrit « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans notre cœur ». Romain, quant à lui, nous dit « Son cœur ne fut point tout entier à l'éternel ». Les choix du cœur, nous pouvons le voir, orientent notre vie tout entière, soit vers la pureté, soit vers la corruption. D'ailleurs, 1 Pierre 3, 4 nous dit que le cœur est une parure cachée de l'être intérieur. Une parure qui n'est foncièrement connue que de Dieu qui sent le cœur, nous dit Romains 8, 27. L'apôtre Paul, quant à lui, a recours à une grande variété d'expressions pour exprimer l'activité de l'âme. Cependant, il utilise lui aussi le mot cœur pour désigner la conscience morale. Il parle des yeux du cœur dans Éphésiens 1. Il fait briller la lumière dans nos cœurs dans Corinthiens. Celui qui a décidé dans son cœur, Corinthiens aussi. Et dans Éphésiens, il est écrit « En sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi ». C'est pas étonnant que dans différentes situations données, le cœur a un même mot pour parler de l'âme humaine. Parce que l'âme, elle n'a pas de compartiment, elle est une seule. Elle est, à l'intérieur se trouve notre besoin d'analyser, notre pensée, nos émotions et tout ça. Souvent, on analyse, nous, avec notre tête, on analyse et tout. Mais après, notre intuition fait la synthèse de tout ça. L'intuition qui se trouve au cœur de l'âme fait la synthèse et on va dans le bon sens. Des fois, on se trompe. Ainsi, d'un même mot, dans la Bible, le cœur, les démarches de la pensée, les sentiments, les bons et les mauvais, les déterminations de la volonté, les élévations de la conscience morale, tout ceci forme un tout qui permet à notre âme de s'ancrer en Dieu et de devenir des êtres toujours plus proches de Dieu. Dans sa parole, Dieu nous appelle afin que nous prêtions attention à ses mots, pour écouter ses dires et les garder dans le fond de notre cœur. Et le verset 21 du Proverbe 4 nous décrit très bien ce qu'il est écrit. Il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mon discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Et le 4:23 nous disait avant « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, ces deux versets correspondent l'un à l'autre. Parce que le mot qui donne la traduction de garde ou de veille en hébreu est natsar, qui signifie veiller, préserver, conserver, garder, tenir secret, garder, fermer, bloquer. Il est utilisé dans cette version-là avec le mot soigneusement. C'est pour ça que j'ai choisi cette version. Parce que d'après le dictionnaire, soigneusement, ça veut dire avec soin, avec application. Mais dans la Bible, le mot qui a été utilisé est le mot mitzmar, qui lui dénote un lieu de détention, une prison. Ça ne veut pas dire que notre âme est en prison. Mais ça veut dire que le mot soigneusement ici signifie que nous devons veiller consciencieusement sur notre cœur, comme si nous le mettions sous clé, sous la protection du Seigneur. Parce que signifie garder notre cœur? Eh bien, ça signifie le protéger. C'est faire attention aux valeurs que nous entretenons au-dedans de nous. C'est veiller sur nos pensées, sur nos émotions. C'est garder notre cœur et établir des limites, des barrières autour de lui, pour déterminer ce qui y rentre et ce qui en sort. C'est veiller sur ce que nous regardons, sur ce que nous entendons, sur ce que nous disons. Parce que les yeux, les oreilles, la bouche sont les portes d'accès à notre cœur. À travers ces différents canaux, le monde extérieur peut avoir accès et influencer ce que nous pensons. Or, tout ce qui a de l'influence sur ce que nous pensons va influencer ce que nous ressentons et les choix que nous allons faire dans la vie. Ça va influencer nos habitudes et le cours de notre vie. Comment nous vivons? Nous l'avons vu, le verset 23 du Proverbe 4 nous dit « Du cœur coulent les sources de la vie. » Si nous laissons entrer ou sortir tout et n'importe quoi, nous influençons ces sources de la vie. Le secret est donc de veiller sur notre cœur. C'est de faire le choix quotidien d'offrir notre cœur à Dieu. C'est de réaliser à quel point il est plus important de garder et de chérir les paroles et les préceptes divins que d'amasser des biens, des désirs et des réalisations sur la terre telles que le monde autour de nous le fait ou les réalise. Il est impossible à l'homme de vivre sans la parole de Dieu. Mais pour porter des fruits venant de la parole, il doit la conserver dans son cœur. Car Dieu regarde au cœur et Dieu veut notre cœur tout entier. Il est intéressé par nos cœurs et quand on regarde à tout ça, on comprend combien il est évident que Dieu veut notre cœur. C'est vraiment cette partie intérieure de nous que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on lui donne que la surface, il veut la totalité de notre être. Il y a d'autres parties dans la Bible qui parlent de ce cœur. C'est 1 Samuel 16:7. qui dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le Seigneur est intéressé par notre cœur. Il ne se soucie pas de notre apparence extérieure. Il ne se soucie pas de nos biens. Dans le mauvais sens du terme. Il ne se soucie pas de savoir si nous sommes bons ou pieux en apparence. Les pharisiens, à l'extérieur, montraient qu'ils étaient pieux, mais à l'extérieur, ils étaient hypocrites. Et dans Luc 16, on voit que Jésus les reprend quand il leur dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. » Parce qu'à l'intérieur, ils étaient hypocrites. De même, Dieu connaît nos cœurs. Et quelquefois, il nous arrive d'être prêts à accomplir de grandes choses au nom de Dieu, sans lui avoir donné totalement notre cœur. Alors que Dieu souhaite simplement que nous lui donnions la totalité de notre être. Notre cœur. Le vrai christianisme n'est pas fait seulement d'apparence. On ne peut pas se satisfaire d'apparence quand on est réellement accroché au Seigneur. Et le verset 1 Samuel 16, 7 met en avant en nous disant « L'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. » Il nous rappelle que c'est à Dieu que nous avons affaire. Et avant tout, que c'est devant lui qu'il nous faut marcher avec un cœur droit. Un chrétien fidèle va haïr ce que Dieu va haïr et va aimer ce que Dieu aime. Et pour le réaliser, nous rencontrons deux obstacles. Un qui est extérieur à nous, le monde et ce qu'il nous montre. Et l'autre, il est intérieur à nous, quand on ne se remet pas totalement au Seigneur. Le monde ne nous paraît pas toujours hostile. Il présente ce que le cœur convoite, ce que le cœur désire. Il nous offre parfois un caractère attirant. Mais ceux dont le cœur est attaché à Jésus considéreront ce monde comme étant celui qui a rejeté le Christ, comme étant celui qui a crucifié le Christ. Et notre cœur ne peut pas être en complète harmonie avec un monde qui a crucifié notre Seigneur. Alors nous pouvons demander à Dieu, au Seigneur, sonde nos cœurs, comme il est écrit dans le psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et Dieu qui connaît notre cœur, nos pensées les plus secrètes, les mobiles de nos actes aussi, il peut nous arrêter si nous ne sommes pas au bon endroit, si nous avons des pensées, des paroles, des actes qui ne sont pas en sa faveur, qui ne sont pas sa gloire. Car Dieu n'est pas seulement intéressé par un morceau de notre cœur, mais il le souhaite tout entier. Et c'est ce que nous dit le premier des commandements que nous trouvons dans Matthieu 22, 37. Il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le plus grand et le premier des commandements. Le prophète Jérémie nous dit aussi au chapitre 29 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et le proverbe 3 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Donc, pour garder les commandements de Dieu, il faut d'abord les connaître et cette connaissance est liée à l'état de notre cœur. Si la parole de Dieu que l'on entend ne pénètre pas jusqu'à notre cœur pour y opérer et y former notre affection en Christ, il n'y aura pas de résultats produits pendant notre marche, ou des petits résultats, mais pas des grands. Et des fois, on est là, on s'épuise et on se dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» En fait, ce qui ne va pas, c'est juste qu'on n'a pas donné totalement tout notre cœur. Dieu souhaite que nous l'aimions, que nous le recherchions, que nous le servions, que nous lui fassions confiance et que nous revenions à lui de tout notre cœur. Des fois, on s'égare sur le chemin, des fois, on prend la mauvaise route, des fois, on boite un peu, et Dieu, lui, attend que nous revenions de tout notre cœur. Alors on chantait « Pardon, Seigneur, pardon », et en fait Dieu attend de nous que nous demandions pardon de tout notre cœur, pas seulement sur face. La conclusion de tout cela, c'est que il va de soi que durant ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, eh bien, je vous ai cité quelques versets de ce cœur, mais je n'ai pas pu tous les faire. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que le cœur est la partie interne de notre être, qu'il est nécessaire que la parole de Dieu soit présente dans notre cœur, car les mots de Dieu y sont conservés et ils constituent la vie. Le fruit que nous portons dépend du trésor présent dans nos cœurs. Le cœur est la partie que Dieu regarde et celle qu'il souhaite que nous lui donnions. Il souhaite que nous l'aimions de tout notre cœur et que nous le servions de tout notre cœur. Que nous le recherchions de tout notre cœur et que nous veillions à protéger notre cœur. Dieu souhaite que nous ne nous éloignions pas de lui et que nous le revenions de tout notre cœur. Que nous fassions des efforts pour préserver à tout prix notre cœur, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quels que soient les déserts que nous traversons, ou au contraire, quels que soient les temps de prospérité que nous traversons. Dieu attend de nous que de tout notre cœur, nous soyons consacrés à lui. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a 876 références au mot cœur dans la Bible. Donc on ne peut pas le couvrir tout aujourd'hui. Mais j'espère vous avoir donné envie et avoir rendu évident l'importance du cœur dans la Bible et comment Dieu nous demande de lui l'offrir. Dieu nous demande, notre Père éternel nous demande d'être totalement consacré à lui. Et sa parole nous demande de le chérir et de chérir sa sagesse et ses préceptes. Tout ceci contribue à protéger notre cœur contre le mal et contre les dangers qui risquent de nous souiller et de nous détruire. Alors assurons-nous, bien-aimés, que la vie de Dieu réside continuellement dans notre cœur et que c'est cette vie qui nous dirige. Et veillons soigneusement sur notre cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Veillez sur notre cœur, c'est partie des clés de la vie en Christ. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, merci. Moi, je veux vraiment te remercier pour ce cadeau que tu nous fais, de pouvoir garder notre cœur, pour cette faveur que tu nous fais en nous demandant, en nous réclamant notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir réaliser tout ce qui en nous n'est pas à ta gloire, tout ce qui en nous, dans notre cœur, n'est pas digne de toi. Aide-nous, Seigneur, à voir quels sont les endroits où nous ne t'avons pas remis la totalité de notre être et de notre cœur. Merci, Seigneur, de nous guider, de nous instruire dans ta parole, afin que chacun de nous puisse veiller sur son cœur. Amen.